abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.
Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est maintenant 8h à Washington et Port-au-Prince, 13h temps universel. RFI Midi aux Amériques et en Haïti avec à la une ces déclarations de Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix et opposante vénézuélienne. Elle dit avoir bénéficié d'une aide américaine pour sortir de son pays. La fierté en Haïti avec l'inscription du compa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette musique populaire et danse aussi. On appelle notre confrère Franz Duval du Nouvelliste à Port-au-Prince. Au programme aussi Cuba face au chikungunya. L'épidémie se propage dans l'île. Et puis notre rendez-vous avec nos confrères d'Outre-mer. Première avec vous précisément, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
À la une, en Martinique, les aides-soignantes de nuit dans les services des urgences du CHU n'en peuvent plus.
Elles se sont mobilisées hier soir pour réclamer, on pourrait même dire implorer, des renforts. Nous entendrons tout à l'heure l'interview de l'une d'entre elles.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et d'abord votre journal Grégoire Morelli avec ce pétrolier saisi au large du Venezuela.
Et Donald Trump part du plus gros navire de ce type jamais arraisonné. Une saisie qui a été réalisée après une opération conjointe de plusieurs agences américaines. Un pétrolier placé sous sanction depuis des années et qui, d'après des médias américains, avait stationné pour la dernière fois au Venezuela et faisait route vers l'île de Cuba, Vincent Sourio.
Sur les images publiées par les autorités américaines, on voit des hommes en armes descendre en rappel d'un hélicoptère, débarquer sur un pétrolier et procéder à la fouille de ce bâtiment. Opération conjointe du FBI, de la sécurité intérieure et des gardes-côtes, l'administration Trump parle, je cite, d'une mesure de police judiciaire visant un navire apatride. Elle affirme que ce pétrolier était utilisé pour le transport de pétrole brut en provenance d'Iran et du Venezuela et que depuis des années, il faisait l'objet de sanctions des États-Unis en raison de ce que Pam Bondi, la ministre de la Justice, désigne comme son implication dans un réseau illicite de transport d'hydrocarbures au bénéfice d'organisations terroristes étrangères. D'après le site Politico, il faisait route vers Cuba, où la Société Nationale d'Énergie Cuba Metales prévoyait de le vendre à des intermédiaires asiatiques spécialisés dans le secteur énergétique. Vincent Sourioux, Washington RFI.
Le ministère des Affaires étrangères vénézuélien a dénoncé pour sa part un vol éhonté et un acte de piraterie internationale, affirmant que les États-Unis mènent une politique d'agression sur le Venezuela. Et c'est un discours presque inverse de la part de l'opposante vénézuélienne. Vous le disiez, Charlotte, Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, a déclaré aujourd'hui avoir obtenu le soutien de l'administration américaine pour sortir de son pays où elle vit cachée et rejoindre Oslo, où avait lieu la remise du prix. Elle a d'ailleurs affirmé qu'elle ferait tout son possible pour rentrer au Venezuela, malgré les risques d'y être arrêtée.
Le Mexique approuve à son tour une hausse de ses droits de douane.
Le Parlement l'a acté hier et cela concerne des produits en provenance d'une dizaine de pays avec lesquels le Mexique n'a pas signé d'accords commerciaux. La Chine est particulièrement visée avec de nouveaux droits de douane, compris entre 20 et 35% pour la plupart des produits et jusqu'à 50% pour d'autres. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum affirme que cette mesure, qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2026, vise à réduire la dépendance du Mexique aux importations chinoises qui déferlent sur le pays d'Amérique centrale. Laura Salaber, je me tourne vers vous, bonjour.
Bonjour.
L'ombre des États-Unis, évidemment, plane sur cette décision.
Oui, avec ses droits de douane sévères visant notamment la Chine, Mexico tente-t-il d'amadouer Washington ? En septembre, Donald Trump avait accusé le Mexique d'être une porte dérobée, une porte qui permettrait aux marchandises chinoises de contourner les taxes américaines en passant par les usines mexicaines. Ces attaques, évidemment, étaient ponctuées de menaces de représailles douanières, de quoi faire frissonner la présidente mexicaine qui jusqu'à présent était parvenue à éviter une taxe généralisée. Il faut dire que 80% des exportations mexicaines sont destinées au marché américain. Préserver les livraisons d'acier, d'aluminium ou encore de tomates aux États-Unis est donc une priorité pour le pays d'Amérique centrale. Mais ces mesures douanières pourraient aussi permettre de protéger l'industrie mexicaine et notamment l'industrie automobile frappée par l'afflux de voitures chinoises qui seront désormais soumises à des droits de douane de 50%. Cette mesure, elle a été saluée par les fédérations automobiles, très inquiètes de la progression spectaculaire de la Chine. Alors que les importations de véhicules chinois étaient presque inexistantes il y a 6 ans, elles représentent aujourd'hui 20% du marché américain, mexicain.
Laura Salabert pour toutes ces précisions, merci à vous.
Le Portugal, Casim, à l'arrêt aujourd'hui.
La conséquence d'une grève générale qui, pour la première fois depuis 12 ans, mobilise les deux grandes centrales syndicales, pour faire barrage au projet de loi travail du gouvernement de droite. Un projet qui traduit un grave recul des droits des travailleurs, estiment ces syndicats. Un rassemblement est prévu à Lisbonne à 15h, heure de Paris. D'importantes perturbations ont lieu dans les écoles et les hôpitaux et surtout dans les transports en commun qui ne circule presque pas aujourd'hui, comme ici à la gare de Santa Apolonia, dans le centre de Lisbonne, où s'est rendue notre correspondante Marilyn Darcy.
À la gare Santa Apolonia, les voyageurs cherchent des solutions alors que les trains se raréfient. Près du métro, Philippa, encore étudiante, pense à son avenir et s'associe à la grève.
Le paquet de mesures du gouvernement ne bénéficie qu'aux patrons, qu'aux propriétaires d'entreprises. Je ne vois aucune amélioration pour les droits des travailleurs. Et je crois, hélas, que les gens pensent que la solution va venir de l'extrême droite.
Dans la gare où les passants se font rares, quelques locomotives. Carlos est agent d'entretien sur l'une d'elles.
Moi, je vais travailler comme d'habitude. J'ai des dépenses, je ne peux pas m'arrêter. Il y a quand même des trains qui circulent. Il faut les nettoyer. La grève se fait en travaillant.
Dans une rue proche de la gare, dans une boutique-atelier, Paola, travailleuse indépendante, embrasse la cause.
Je pense que l'on est en train de perdre nos droits et ceux des plus jeunes. Nous devons les soutenir. Moi, je vais défiler. Nous devons lutter pour une société juste, pour des droits de l'homme qui ne sont pas respectés.
La grève générale unitaire, la première en 12 ans, prendra fin à minuit jeudi. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
On en vient à présent à cet accord trouvé hier entre le gouvernement danois et les 143 femmes groenlandaises, qui avaient porté plainte contre l'État danois dans le cadre de l'affaire dite du stérilet. Il s'agit de contraceptions forcées qui ont eu de lourdes conséquences pour ces femmes. Elles obtiendront toutes 40 000 euros de compensation. Otilia Ferret, notre correspondante dans la région, s'est entretenue avec l'une d'entre elles.
Cette annonce résonne comme une véritable victoire pour Elisa Christiansen.
Yes.
Oui, on l'a fait, top là.
La dano-groenlandaise de 63 ans arbore un large sourire et sautille sur sa chaise. Elisa n'avait que 13 ans lorsqu'on lui a implanté un stérilet pour adulte sans son consentement. Des complications ont suivi, entraînant l'ablation de son utérus. Après les excuses officielles de l'État danois, elle sera donc bien compensée par le fonds dit de réconciliation.
Je peux enfin respirer. Ça a été un combat épuisant. Ce que j'espère du plus profond de mon cœur, c'est que ça n'arrive plus jamais, à aucune fille, plus jamais.
Mais pour elle, comme beaucoup, le processus de guérison est encore long.
Ce n'est que de l'argent, ça ne me rendra pas mon utérus ou les enfants que j'aurais pu avoir. À mon âge, j'aurais pu avoir des petits-enfants, ça n'arrivera jamais. À présent, je vais continuer ma thérapie parce que mon passé est très lourd. Il pèse encore beaucoup aujourd'hui.
On estime qu'au moins 4500 femmes ayant subi une pose de stérilet à leur insu sont éligibles à cette compensation. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Un mot de la Bulgarie, enfin, où le Premier ministre a annoncé il n'y a même pas une heure la démission de son gouvernement. Annonce qui intervient au lendemain d'une nouvelle manifestation de masse pour dénoncer la corruption dans l'appareil de l'État, mais aussi à 3 semaines de l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. La Bulgarie qui fait face à une instabilité politique avec 7 élections organisées au cours des 4 dernières années après l'effondrement des coalitions au pouvoir.
Grégoire Morelli, 14h09, ici à Paris.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on en parlait à l'instant dans le journal, ces déclarations de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix. Elle est finalement arrivée à Oslo, en Norvège. Elle dit qu'elle fera tout en son pouvoir pour rentrer au Venezuela, pour poursuivre, dit-elle, sa lutte contre la tyrannie. Maria Corina Machado, arrivée dans la nuit, donc trop tard pour recevoir son Nobel en personne hier. Elle est apparue tout à l'heure pour sa prise de parole publique, la première depuis près d'un an, et elle en a profité pour dénoncer l'état de son pays, le Venezuela, et le régime de Nicolas Maduro. On l'écoute.
Écoutez, certaines personnes parlent d'invasion au Venezuela, de menace d'invasion au Venezuela. Et je réponds, le Venezuela a déjà été envahi. Nous avons des agents russes, nous avons des agents iraniens, nous avons des groupes terroristes tels que le Hezbollah et le Hamas qui opèrent librement en accord avec le régime. Nous avons la guérilla colombienne, les cartels de la drogue qui contrôlent plus de 60% de notre population et qui ne se livrent pas seulement au trafic de drogue mais aussi à la traite des êtres humains dans le cadre de réseaux de prostitution. Tout cela a fait du Venezuela la plaque tournante du crime dans les Amériques. Et ce qui a permis au régime de se maintenir, c'est un système de répression très puissant et très bien financé. D'où proviennent ces fonds ? Eh bien, du trafic de drogue, du marché noir du pétrole, du trafic d'armes, de la traite des êtres humains. Nous devons couper ces flux.
Voilà, Maria Corina Machado qui répond donc au président vénézuélien Nicolas Maduro. Le régime dénonce les opérations, les interventions américaines au large des Caraïbes. Bonjour François-Damien Borgery.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et tous.
Maria Corina Machado qu'on vient d'entendre qui est à la une de votre revue de presse des Amériques. Et vous nous parlez d'abord d'une photo.
Ou plutôt deux photos, celle de Maria Corina Machado, donc qui apparaît en bonne place sur de nombreux sites d'information du continent. La Nation en Argentine la montre ainsi main jointe à la fenêtre du Grand Hôtel à Oslo. On la voit bras grands ouverts dans El Comercio au Pérou, saluant la foule, dans la Razón au Mexique et El Espectador en Colombie, ou étreignant ses partisans rassemblés dans la capitale norvégienne sur le site d'El Nacional. Le câlin le plus attendu, titre le quotidien vénézuélien, qui consacre tout un diaporama à la première apparition publique de, de l'opposante vénézuélienne après des mois de clandestinité.
Maria Corina Machado qui est aussi à la une du Wall Street Journal.
Le quotidien new-yorkais qui raconte comment la prix Nobel de la paix est parvenue à s'échapper du Venezuela pour se rendre à Oslo. Une épopée qui a commencé lundi après-midi lorsque l'opposante a quitté la banlieue de Caracas où elle se cachait pour un village de pêcheurs. Le Wall Street Journal décrit 10 heures angoissantes durant lesquelles la prix Nobel, accompagnée de deux personnes et coiffée d'une perruque, est parvenue à passer de checkpoint en checkpoint pour finalement atteindre la côte. De là, Maria Corina Machado a embarqué à bord d'un petit bateau de pêche direction Curaçao puis Oslo où elle est donc arrivée peu après minuit heure locale.
Et elle a reconnu tout à l'heure avoir bénéficié d'une aide américaine pour sortir du Venezuela. Du Venezuela, il en est aussi question après la saisie d'un pétrolier par les États-Unis.
Le plus gros pétrolier jamais saisi, dixit Donald Trump, un terme d'ailleurs largement critiqué au Venezuela. Les États-Unis attaquent un pétrolier et Trump appelle cela une saisie, pointe ainsi Ultimas Noticias. Pour le quotidien, les mots choisis par le président américain minimisent la gravité d'un acte qui marque un nouveau tournant dangereux dans des relations bilatérales déjà tendues. Le Washington Post, de son côté, parle d'une escalade significative dans la campagne contre Nicolas Maduro, ce que confirme le Boston Globe, qui a compilé les avis de nombreux experts et membres du Congrès, et ils sont unanimes, Donald Trump s'engage sur une pente de plus en plus glissante. Le New York Times, lui, s'est intéressé au trajet effectué par le navire saisi par les États-Unis. Images satellites, photos et données de suivi à l'appui. Le quotidien montre que le pétrolier, lui-même sous sanction depuis 2022, s'est rendu dans plusieurs pays frappés par des sanctions américaines. Entre février et juillet de cette année, il a ainsi transporté près de 2 millions de barils de pétrole brut d'Iran vers la Chine.
Et vous nous parlez enfin, François-Damien, de la stratégie de défense des États-Unis.
Oui, après que la Chambre des représentants a approuvé hier un projet de loi de 900 milliards de dollars sur la politique de défense américaine, un texte qui porte l'empreinte de Donald Trump, avec par exemple l'interdiction des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion au sein du ministère de la Défense, mais qui aussi va à rebours du programme du locataire de la Maison-Blanche, c'est encore dans le New York Times qu'on le lit. Le projet de loi, explique le quotidien, prévoit notamment de limiter le retrait des troupes américaines en Europe voulu par le Pentagone, et il autorise une aide annuelle à la sécurité de 400 millions de dollars pour l'Ukraine pendant encore 2 ans, là où, au contraire, Donald Trump fait pression pour mettre fin au soutien militaire militaire américain à Kiev. Cette stratégie américaine, on boucle la boucle, est examinée à la loupe au Venezuela, où le quotidien Le National observe le nouvel ordre mondial en cours. C'est un article à retrouver dans les pages opinion du journal. Il décrit les nouveaux équilibres géopolitiques et se pose cette question. Quelle place pour les petits pays, pour El Nacional? La réponse se trouve dans le multilatéralisme et la nécessité de ne se confronter à aucune grande puissance, sans quoi, estime-t-il, le Venezuela connaîtra le même sort que Cuba, un pays détruit et sans avenir.
François-Damien Bourgerie pour la revue de presse Cuba. On ira justement dans quelques minutes sur l'île qui fait face au chikungunya.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Mais d'abord, on part en Haïti avec ce nouveau motif de joie nationale. Et c'est précieux en ces temps de crise profonde. Après la qualification historique de l'équipe de foot d'Haïti pour le Mondial 2026, le compas haïtien, cette musique populaire qu'on chante, qu'on danse dans tout le pays, on va bien sûr en entendre tout à l'heure, le compas donc a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Évidemment, grande joie, grande fierté à Port-au-Prince.
Pour moi, c'est une victoire par rapport au passé difficile de ce pays. Donc c'est une victoire pour la jeunesse, une victoire pour la culture haïtienne, une victoire pour tous les Haïtiens, que vous soyez en Haïti ou à l'étranger.
C'est une grosse satisfaction.
C'est une grande satisfaction pour tout le pays, pour tous les amoureux du compas qui représentent pratiquement notre identité en tant que peuple. Nous avions vraiment besoin de cette reconnaissance. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Il nous reste encore beaucoup à faire.
C'est une très bonne décision.
C'est une très bonne décision. Ça fait plaisir à nous qui travaillons dans l'animation culturelle, mais aussi aux artistes qui font du compas. Plus qu'un rythme musical, le compas est une tradition. Le compas, c'est l'âme d'Haïti. Chaque fois qu'il résonne, il nous fait du bien, parce que c'est une part de notre identité.
Parce que c'est identité, non ?
Et donc, ce sont des témoignages recueillis par Peterson Luxama à Port-au-Prince. Bonjour, Franz Duval.
Bonjour.
Notre rendez-vous, comme tous les jeudis, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Vous êtes en ligne de Port-au-Prince. Qu'est-ce que ça vous inspire alors, Franz, cette inscription du compas au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qu'est-ce que ça représente pour Haïti?
Alors, je dois dire que cette inscription tombe à pic. Cette année, on a célébré les 70 ans du compas, car c'est une musique populaire urbaine dont on connaît le nom du créateur, Nemo Jean-Baptiste. On connaît la date de naissance du compas, c'était en juillet 1955. On connaît tous les groupes qui ont joué du compas, on connaît l'influence que le compas a eu dans la Caraïbe, qui a influencé d'autres musiques. On connaît le succès à l'international, on a vécu le succès à l'international du compas. Et aujourd'hui, à cette reconnaissance, cette inscription dans la liste du patrimoine immatériel, eh bien, ça arrive comme la cerise sur le gâteau pour les 70 ans du compas. C'est une très bonne chose, nous sommes très fiers en Haïti de ça. Et parce que nous sommes de très grands consommateurs de compas.
Une bonne nouvelle.
Cette inscription nous parle.
Super, très très bonne nouvelle effectivement. On va y revenir tout à l'heure au compas. D'abord, cet autre sujet développé aujourd'hui dans le Nouvelliste, l'Office national d'identité qui va doter chaque enfant d'un numéro d'identité. Expliquez-nous, Franz, en quoi c'est important pour Haïti, comment ça marche?
Alors, il faut dire qu'en Haïti, tout le monde n'est pas identifié. Ce n'est pas seulement les enfants qui ne sont pas identifiés, mais certains adultes aussi ne sont pas identifiés. L'Office national d'identification va essayer de faire le forcing pour donner un numéro d'identification, ensuite une carte d'identité au maximum d'Haïtiens. C'est un vaste projet, c'est un projet plutôt difficile ces jours-ci, parce que les départements géographiques les plus peuplés ne sont pas accessibles. Aujourd'hui, vous naissez en Haïti, on vous déclare quelque part dans un état civil, et quelques temps plus tard, ce bureau d'état civil est saccagé, est brûlé et on perd toute trace de votre naissance même. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont déplacés à cause de la violence des gangs, beaucoup de gens qui ont perdu leur carte d'identité, beaucoup de gens qui n'existent pas parce qu'ils n'ont pas de papier, mais qui sont là en Haïti. Et l'office va essayer de régulariser tout ça, mais aussi d'étendre ses services d'identification aux nouveau-nés, aux enfants, à ceux qui sont à l'école, aux étudiants, aux élèves. Et c'est un vaste projet, mais ça va prendre des années.
Gros chantier. La violence des gangs et le lien aussi que vous faites avec les rassemblements de religieux. Hein. Vous revenez sur ce rassemblement de catholiques vendredi dernier pour commémorer la fête de la Vierge. Comment est-ce qu'on peut pratiquer la religion en Haïti, France, et maintenir les services religieux malgré l'insécurité, malgré les gangs?
Ça ne s'est jamais arrêté. Au contraire, je dirais même que ça s'est accéléré. Les Haïtiens continuent d'aller à l'église, les Haïtiens continuent de prier. Les Haïtiens continuent de faire des pèlerinages, même dans des quartiers, dans des lieux où les gangs sont omniprésents. Et les Haïtiens vont dans ces églises qui sont des églises historiques, mais qui aujourd'hui sont situées dans des territoires perdus. Ce qui s'est passé à Inche, qui est dans le plateau central, pas trop loin de Mirbalais, se passe aussi à Port-au-Prince, car la Vierge est très respectée en Haïti. Et beaucoup d'églises sont consacrées à la Vierge. Et les Haïtiens continuent de fréquenter ces lieux de culte parce que en Haïti, on aime le compas, mais avant tout, on adore prier et on va prier à chaque fois que c'est nécessaire.
Et donc, c'est à lire sur le Nouvelliste. Un grand merci à vous, Franz Duval, rédacteur en chef. Très bonne journée à Port-au-Prince.
Bonne journée.
RFI, la radio del mundo.
RFI direction Cuba, dans les Caraïbes, où le virus du chikungunya s'est propagé ces dernières semaines dans toute l'île, avec un nombre de cas en forte hausse. Ça avait commencé au mois de juillet dans l'ouest, près de la Havane, avant de s'étendre aux 15 provinces du pays. Maintenant, le gouvernement cubain semble avoir pris en main la situation. Le gouvernement qui communique chaque jour à la télévision le nombre de cas enregistrés. Mais c'est bien la population qui avait commencé à alerter sur ce chikungunya sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'explique Lázaro Leiva, ancien chef de médecine interne de l'hôpital Arnaldo Milian Castro à Cuba et qui exerce désormais en Espagne.
La population commençait à alerter sur cette situation.
C'est d'abord sur les réseaux sociaux que la population a commencé à alerter sur cette situation. Et bien entendu, toutes les informations médicales à Cuba sont contrôlées par le système politique. Donc rien n'a été fait. Ceux qui commentaient ce sujet ont même été censurés. Avec si peu d'informations, on en est arrivé à la situation actuelle. Et puis, le gouvernement a commencé à informer et à parler plus ouvertement de la maladie dans les médias officiels, tant dans la presse écrite qu'à la télévision, car le nombre de cas était déjà si élevé et la colère de la population sur les réseaux sociaux avait atteint un tel point qu'il était très difficile de continuer à cacher les informations. Quant aux données fournies, elles ne sont pas vraiment fiables. En fait, il n'existe pas de moyen permettant d'établir un diagnostic clair de la maladie. Et les données enregistrées et fournies par l'État ne peuvent pas être vérifiées. Les chiffres officiels sont presque toujours sous-estimés, souvent bien inférieurs à la réalité. Et bien sûr, l'état des infrastructures existantes à Cuba et les conditions insalubres sont propices au développement du virus dans le pays et à sa propagation, comme c'est le cas actuellement.
Comment expliquer que l'épidémie prenne une telle ampleur ?
Eh bien, il y a un manque de tests. Ces tests de diagnostic ne sont pas faits. Et je pense que c'est une situation dans laquelle on confond différentes infections virales qui présentent des symptômes similaires. Il est souvent difficile, sans diagnostic clair fondé sur des tests ou des analyses de laboratoire, d'avoir un aperçu réel des infections qui circulent le plus à une période donnée et du nombre de patients touchés par chacune d'entre elles. Le chikungunya a une particularité qui est la douleur articulaire, c'est-à-dire l'inflammation des articulations. Donc, sur cette base, il y a des approximations de diagnostic. Mais malheureusement, les tests ne sont pas effectués. Le chikungunya a un taux de mortalité très faible. Lorsque des décès surviennent, il est un peu compliqué de dire qu'ils sont dus au chikungunya, car ce n'est pas une maladie mortelle. D'autres facteurs entrent alors en jeu, comme la coexistence d'autres infections, un retard dans le diagnostic, des complications qui peuvent apparaître et au bout du compte, cela peut entraîner la mort.
Pourquoi le système de santé cubain est dans un tel état ?
Cuba s'est toujours caractérisé par un système de santé solide. À une époque de l'histoire du pays, nous l'avions. Il y avait beaucoup plus de ressources. Mais aujourd'hui, le système de santé s'est détérioré. On assiste à une dégradation des institutions et des infrastructures de santé. Il n'y a pas de médicaments, pas de ressources pour soigner, pas de moyens pour diagnostiquer. Tout cela a entraîné la crise sans précédent que traverse actuellement le système de santé. L'attention et l'investissement en matière de ressources vitales pour un système de santé publique sont insuffisants de la part du gouvernement. Et si les ressources qui peuvent arriver dans le pays, celles qui peuvent être générées de l'extérieur, comme le tourisme, sont détournées vers d'autres priorités que la santé, eh bien évidemment, cela rend le système encore plus précaire.
Voilà l'explication de Lázaro Leiva, ancien chef de médecine interne à Cuba et qui exerce maintenant en Espagne tout de suite. On va retrouver nos confrères de l'Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer.
Et avec vous, Benoît Ferrand, en Martinique, donc les aides-soignantes de nuit dans les services des urgences du CHU sont fatiguées, elles n'en peuvent plus et elles le font savoir.
Elles se sont mobilisées en effet hier soir, mercredi soir, pour réclamer, on pourrait presque dire implorer, des renforts et de préférence le plus vite possible. Écoutez l'une de ces aides-soignantes, elle s'appelle Marie-Annick Dell, elle est au micro de Franck Zozor.
Je viens avec une boule au ventre au travail parce que c'est dur. On doit répondre à tous les besoins des patients en étant en peu d'effectifs. Je me dis toujours, est-ce que j'y arriverai au bout de ma mission, de notre mission d'ailleurs, nous tous, est-ce qu'on va arriver au bout en étant en si petit nombre? Donc je stresse énormément parce qu'on est demandé à droite à gauche et on ne peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde en temps voulu.
Et comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à ça?
À moi, là, ce soir, je suis déterminée. Il faut qu'on nous donne les 3 aides-soignants manquants. Parce qu'il y a des demandes, il y a des gens qui postulent. Donc, il est hors de question que j'entende aujourd'hui qu'il n'y a pas de poste à pourvoir.
Direction la Guadeloupe avec un tout autre sujet. L'inauguration hier d'un compensateur synchrone. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à stabiliser le courant lorsque les énergies renouvelables se montrent un tantinet capricieuses. Explication de la directrice régionale d'EDF en Guadeloupe, Marilyn Bassette.
Ces moyens de production, par définition, sont ce qu'on appelle intermittents. Ça veut dire que s'il y a un nuage, eh bien, la production va baisser. S'il y a une baisse de vent, la production d'éolien va baisser. Et un réseau, pour être stable, pour pouvoir délivrer une électricité de qualité chez chacun de nos concitoyens, il a besoin de stabilité. Donc c'est en permanence nos opérateurs qui équilibrent entre l'offre et la demande et qui permet d'avoir une fréquence stable. Et plus les énergies intermittentes sont importantes sur le mix énergétique, mais plus il y a de l'instabilité. Et donc aujourd'hui, on était face à un paradoxe. On était obligé de démarrer un moyen de production plus classique qui a de l'inertie pour pouvoir donner de l'inertie au réseau et stabiliser la fréquence. Et donc, on a une manne importante en termes de solaire, d'éolien grâce à nos alizés. Et là, on était limité techniquement de cette intégration. Et donc, face à ce paradoxe, on s'est tous penchés sur le problème. On a mobilisé des experts, on a mobilisé la recherche et développement du groupe EDF pour trouver une solution pour pouvoir pallier à ce problème. Et c'est ainsi qu'est né le projet du compensateur synchrone.
Bon après-midi, à demain.
Merci à vous Benoît Ferrand, à demain également pour notre rendez-vous quotidien avec vous, nos confrères de l'Outre-mer. Et pour saluer l'inscription du compas haïtien sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, on finit en beauté avec Tabou Combo, son titre « Tu as volé » sur RFI. Tu as volé de Tabou Combo pour saluer donc cette inscription du compas haïtien sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est ainsi que se termine RFI Midi. Merci à Quentin Moulin à la réalisation, Marie Normand à la rédaction en chef. Merci à eux, merci à vous pour votre accueil. Tout de suite, Pascal Paradou pour De Vive Voix. Très bonne journée.
L'épopée des musiques noires.
Ils sont nés un 22 décembre à 22 ans d'écart. Le pianiste martiniquais Grégory Privat et le saxophoniste guadeloupéen Jacques Schwartzbart ont uni leurs talents pour imaginer un album dans lequel une myriade de sources d'inspiration magnifie leur prouesse stylistique. C'est ainsi que 22 a vu le jour, un album à découvrir dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, samedi à 13h30.
RFI. Résistance.
Moi, je pense que la saga de Shadrach Memkin a elle seule décrit et explique toute la complexité de cette quête de liberté.
On va refaire exactement toute la route que lui a faite, de Norfolk jusqu'à Montréal.
Suivez le périple du rappeur Webster et son père, Cher Ndiaye, sur les traces de Shadrach Memkin, un esclave du 19e siècle épris de liberté. Une série de podcasts de Radio-Canada à écouter sur le site et les applications de RFI.
Quelle idée des oiseaux dans le ciel de Jérusalem, des oiseaux pour raconter la guerre, la peur, la haine, des oiseaux querelleurs qui commentent une tragédie à moins que l'on ne parle d'incident. Faut-il tendre l'oreille pour écouter le babil des bouleboules ? Assurément. Des oiseaux dans le ciel de Jérusalem et sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris avec le nouveau spectacle de Yuval Rossman, auteur et metteur en scène, né à Tel Aviv et vivant à Paris. Au nom du ciel, son spectacle revient sur la mort d'un jeune Palestinien autiste abattu par un soldat israélien le 30 mai 2020 à 6h13 du matin. Bonjour Yuval Rossman.
Bonjour.
Il faut dire le nom de cet homme qui a été abattu ce matin-là.
Yad El-Khalak.
Yad Khalak, et le spectacle lui est dédié, puisque à la fin du spectacle, sur le mur du théâtre, il est écrit « À la mémoire de Yad Al-Khalak ».
Exactement.
Il faut dire que cet assassinat avait soulevé des vagues d'indignation à l'époque et que sa mort est devenue un peu un symbole de l'arbitraire et de la violence contre les Palestiniens.
Oui, c'était au tout début de la pandémie du Covid. Un mois et demi après le début, le premier confinement et la mort d'Yad El-Khalak, c'est seulement 5 jours aussi après la mort de George Floyd. Donc, I can't breathe. Donc, il y avait beaucoup de tensions dans la vieille ville de Jérusalem. La veille, il y avait 3 attaques au couteau aussi dans la vieille ville, juste devant le mur de Lamentation. Et la tension était énorme. Et puis, oui, le Yad El-Khalak et ce qui s'est passé après dans les mois à venir, surtout le mois d'août, il y avait beaucoup de manifestations à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, avec l'image d'Yad sur les autoroutes.
Aujourd'hui, c'est un symbole encore, 5 ans après?
Non, il y avait beaucoup de... Parce que le procès quand même a duré pendant 3 ans et demi, et maintenant, malheureusement, l'histoire a été un peu oubliée. C'est pour ça aussi que c'était important pour moi de reparler de ça.
C'était justement ma question. Depuis 2020, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au Proche-Orient, notamment les attentats du 7 octobre en Israël, qui ont été qualifiés récemment, c'était hier je crois d'ailleurs, de crimes contre l'humanité par Amnesty International. Et puis il y a eu la guerre contre Gaza, 68 000 morts, un territoire réduit à un champ de ruines. Et d'ailleurs un débat toujours virulent pour savoir quel mot mettre sur cette guerre. Est-ce qu'on parle de génocide ou pas? Vous, quel mot vous mettez?
Moi, évidemment, pour moi, c'est... Moi, je suis très étonné quand même que ça... C'est un débat en Israël ou en Europe, parce que c'est clair que c'est un génocide. Vous dites 68 000 morts, ça dépend qui compte. Il y a d'autres chiffres qui parlent plus de 100 ou 150 000 morts à Gaza. Et puis la faim et les enfants. Donc oui, cette histoire aussi, c'est pour mettre aussi une lumière, je sais pas, à la hauteur du soleil ou de cet univers pour l'Israélien, pour Israël, et pour encore parler des histoires, parce que quand on dit 100 000 morts, 60 000 morts, on parle d'un génocide, mais on oublie qu'il y a, pour chaque personne, il y a une histoire. C'est pour ça que c'était important pour moi de parler de l'histoire d'Iyad, de ses parents.
De parler donc d'un homme, d'une personne. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et cet assassinat en 2020? Est-ce que vous faites le lien?
Je pense que c'est toujours, bien sûr qu'il y a un lien, mais c'est toujours, je parle du système dans la pièce. On parle du système et le système qui est malade, de la société israélienne qui est malade, malheureusement. Et je parle, ça ne m'intéresse pas trop de parler aujourd'hui de Netanyahou ou de Ben-Gvir ou de Smotrich ou des hommes politiques, parce que c'est la société, en fait, qui a un cancer au sein de la société israélienne, qui a fait élire et qui vit aussi dans un aveuglement, malheureusement. Et ces oiseaux, mes oiseaux dans la pièce, jouent beaucoup avec cet aveuglement. Peut-être on parlera plus tard, mais entre cette légèreté, cette recherche tout le temps autour de la bouffe, autour de blagues, autour de cet humour, et malheureusement avec ces crimes contre l'humanité qui sont juste à côté d'eux.
Et puis ils jouent aussi avec les mots, parce qu'ils disent ou incident ou tragédie pour la mort de Iyad Halalak. Les mots sont un peu piégés de toute façon, dans ce contexte-là, dans cette société-là, quand on parle de cette région-là.
Oui, c'est vraiment un combat aussi autour de mots, et on vit aujourd'hui aussi dans un monde où là on a une émission de 30 minutes, c'est assez rare et c'est très précieux, mais souvent on vit dans un monde aussi où on vit dans le slogan, ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où ça manque de les nuances ou la complexité. Donc l'idée aussi, oui, c'est de travailler autour de ces mots-là, autour de la tragédie, autour de l'histoire, de l'espoir, qui est vraiment presque lié à la perversité aujourd'hui quand on parle de l'histoire.
Si les mots sont piégés, c'est pour cela que vous donnez la parole à des oiseaux, parce que finalement ils sont plus légers que nous.
Bah, j'ai pensé au tout début de l'écriture de ce projet, je voulais faire quelque chose un peu poétique. Quand j'ai commencé à travailler avec des ornithologues israéliens et des ornithologues palestiniens, c'était exactement le but de chercher cet auteur, cette poésie. Et puis, dans le travail avec les ornithologues, j'ai compris aussi la violence qui existe entre les espèces, la cruauté, la méchanceté. Et ce combat autour du territoire. Non, mais le choix aussi de ces oiseaux, surtout après le 7 octobre, que je voulais m'éloigner de la réalité. Et souvent, dans mes autres pièces, c'était souvent des cris ou une blessure ouverte. Et là, dans cette pièce, je voulais essayer, tellement la tragédie est là et post-7 octobre, et ce qui se passe toujours à Gaza est tellement tragique que, grâce à ces oiseaux, je voulais un peu m'éloigner et chercher un autre langage qui est peut-être un peu plus aérien, plus léger, et aller peut-être plus loin dans ce que je peux dire sur la situation aujourd'hui.
Et ils parlent comme des oiseaux, mais ils parlent aussi comme des hommes. En fait, ils ont les deux langages, les comédiens qui sont sur scène. Une des grandes voix de la musique world revient entre nos oreilles aujourd'hui, c'est Swad Massi, extrait de son album à paraître au printemps, Samt, qui veut dire « silence ».
تبكي ومال الليل طال ومال صدري ضاق بسر لا يقال مال العين تبكي ومال الليل طال ومال صدري ضاق بسر لا يقال We'll be right back.
بيك مثل خضار عقلي حاضر وغايب ومحيرني بسؤال محيرني بسؤال
Merci sur RFI et Yuval Rosman, aujourd'hui notre invité pour son nouveau spectacle Au nom du ciel, un spectacle sur la mort de Iyak Al-Halak, un jeune homme palestinien de 32 ans abattu par un soldat israélien plus jeune encore qui avait 18 ans. Alors je ne sais pas si disant cela et écoutant le début de l'émission, les auditeurs ou les auditrices ont l'image du spectacle parce que il est grave mais il est drôle aussi, on chante, on danse, vous jouez vraiment sur ces deux cordes-là, c'est-à-dire à la fois la gravité et la légèreté.
Oui, c'est vraiment sur la forme d'une comédie noire, et après c'est l'humour très acide, parfois trash, hyper inspiré par mes rêves de quand j'étais ado, je sais pas si les auditeurs connaissent, mais Beavis and Butthead ou BoJack Horseman ou South Park. Donc c'est des personnages un peu soit animaux, soit des enfants qui font vraiment des blagues pourries et surtout ils veulent toucher à tout, ils veulent faire des blagues sur tout. Donc c'est vraiment un humour très acide, mais pour parler de la tragédie. Et je pense que c'est grâce à l'humour aussi qu'on peut ouvrir des portes qu'un discours frontal refermerait très, très vite, très tôt.
C'est un peu votre marque de fabrique depuis que vous faites du théâtre, ce décalage. Parce que dans la pièce précédente, je crois qu'il y avait des canards en plastique géants. Là, il y a des oiseaux sur des balançoires. Donc vous aimez quand même toujours vous décaler un peu.
Oui, je pense que ça vient vraiment beaucoup de ma grand-mère qui était rescapée d'Auschwitz et c'est elle la première qui croyait pas en Dieu, et même si mes parents sont religieux, et c'est elle qui voulait toujours faire des blagues sur Hitler, sur la Shoah, sur les Allemands, et elle m'a dit toujours que c'est grâce à l'humour qu'elle a survécu les camps. Donc c'était une femme un peu méchante, mais très 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 drôle. Et c'est, je pense que c'est grâce à elle qu'elle m'a appris d'utiliser l'humour comme un outil, comme une arme, comme un outil de survie.
Oui, et puis c'est vrai que le monde quand même est assez absurde aujourd'hui, donc autant en rire.
Bah, c'est très absurde parce que l'endroit aussi où Iyad a été assassiné, dans ce local à poubelle, juste à côté de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, de la Via Dolorosa, c'est un endroit tragique pour les humains, pour Iyad, pour la famille d'Iyad, pour tous les personnages, mais pour les oiseaux. Quand j'ai visité ce local à poubelle à ciel ouvert, on voit autour de 200 oiseaux. Et pour eux, la poubelle en Israël, c'est pas du tout comme en France, en Israël, en Palestine, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc, il y a des sacs énormes de poubelles et beaucoup de jus de poubelles. Donc, les oiseaux, c'est un endroit très joyeux pour les oiseaux, pour la bouffe, etc. Donc, ce mélange-là et ce décalage-là qui m'a intéressé aussi de raconter cette histoire via la parole des oiseaux.
Donc l'idée du spectacle est née de l'observation de ce local à poubelle. S'il y a des oiseaux dans votre spectacle, c'est parce qu'il y en a qui ont vu l'assassinat de Iyad ce jour-là de 2020.
Oui, après, c'est une fable et un conte que je raconte et que j'ai inventé. Mais à la base, je voulais faire vraiment un projet sur l'ornithologie et sur différentes espèces qui ne s'entendent pas du tout dans le ciel de la Cisjordanie, et de travailler sur cette image-là. Et puis, quand j'étais là-bas, pendant la résidence, quand j'étais en Cisjordanie, il y avait l'histoire de Yad El-Khala qui m'a beaucoup touché. Et puis, j'ai commencé un peu à écrire autour de cette histoire, mais mon théâtre était jamais vraiment... J'ai du mal à raconter juste une histoire tragique collée à la réalité. Donc, j'ai toujours besoin un peu de ce décalage-là pour parler de quelque chose d'assez tragique, mais toujours un peu décalé.
Donc, trois oiseaux dans votre spectacle Au nom du ciel, quasi emplumés, ou du moins avec des costumes colorés et très brillants. Et on va peut-être faire les présentations, parce qu'il y a un boule-boule. Alors, le boule-boule, c'est un beau gosse.
Le boule-boule d'Arabie.
il est un peu frimeur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet oiseau-là?
Le boule-boule, c'est l'oiseau local, c'est l'oiseau national aussi pour la Palestine ou pour Israël. Et il est vrai, il n'existe pas en France, en Europe. Il est en Liban, en Syrie, en Cisjordanie, en Égypte. Et c'est un oiseau chanteur, très mignon, de 20 cm, et hyper social, mais aussi territorialiste et faible.
Et puis, il y a... En bleu, une drara, alors ça c'est une drôle d'espèce que vous dites invasive et agressive.
Voilà, la drara c'est comme le perruche à collier, elle est verte avec des points bleus et orange autour du bec. Et elle est arrivée en Israël dans les années 60-70, une espèce invasive. Et aujourd'hui c'est l'espèce numéro 2 en Israël et en Arabie Saoudite, en Égypte. Les gens détestent l'Israélien aussi à cause de cette arrivée de la drara. Qui mange les oisillons de boule-boule, etc.
Mais il faut faire des raccourcis ou des rapprochements. Est-ce que dans les deux, il y en a un qui est israélien et l'autre palestinien? Est-ce qu'il y a des oiseaux israéliens
surtout
et d'autres
pas.
Palestiniens? Surtout pas, d'accord. Donc on passe au troisième volatile, qui est tout en noir. Et lui, c'est un martinet, et c'est un oiseau migrateur. Le martinet, ça on le connaît sous tous les continents.
Exact, le martinet noir qui passe l'hiver en Afrique et après il passe 2 mois en Israël et il s'installe vraiment beaucoup dans le mur de lamentation et autour de la mosquée Al-Aqsa et après il vient en France et et il est très très aimé en Israël comme partout dans le monde. Et ici, je travaillais, tout le monde connaît le martinet, qu'il vole, qu'il est très sportif. Et ici, je travaillais surtout sur le martinet comme un personnage un peu fatigué, un peu en fin de vie et un peu comme le juge de l'histoire. C'est l'étranger qui porte un avis sur la situation.
Et donc, votre martinet arrive de Bamako et cherche à faire son nid conversation entre oiseaux.
Et il n'y a pas trop de missiles dans le ciel, des drones, tout ça.
Et des cailloux.
Il y a des cailloux avec les manifestations. La dernière fois, elle a failli prendre un caillou dans sa grosse tête.
Voilà,
tout le monde a vu. Non, mais pardon, fais attention, vraiment. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de gros cailloux énervés là.
Non, mais de toute façon, moi, je m'en fous un peu des oliviers et je me trouve, je me poser sur un fil, tranquille.
Ah non. Non, tu viens à la maison, Martin.
Tu vas pas aller sur un fil électrique comme un pigeon, là.
Non, ça va. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver et ça fait plaisir de vous voir.
Mais non, mais dors dans le lit. Hein
ah
ce
non,
soir.
Non. Moi, je dors pas.
Ouais, on t'a vu, hein, mon œil.
Mon œil, on t'a vu.
Conséquences de la guerre sur les oiseaux, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que les drones, finalement, ça ne plaît pas du tout aux oiseaux parce qu'ils doivent partager le ciel.
Exactement, même le mur, la construction du mur, il y avait, quand j'ai travaillé avec les ornithologues, ils m'ont parlé de toute la construction du mur, de l'industrie de la sécurité, comment il y a une influence sur les différentes espèces et notamment les oiseaux aussi qui mangent, qui bouffent beaucoup le poudre à fusil. Et donc, il y a aussi les lancers de Rougatka, le lance-pierre dans les manifs, et qui tue bien sûr des oiseaux. Et... Donc il y a toute l'industrie de l'armement a une énorme influence sur les oiseaux.
Alors sur scène quand même c'est assez beau d'imaginer des oiseaux parce qu'en plus vous leur faites faire à ces acteurs et actrices de la voltige au-dessus de la scène et des spectateurs. Il y a une dimension qui est très, très visuelle et très onirique. Et je me suis demandé comment on rêve quand on vient du Proche-Orient, quand on sait que son territoire, sa terre est ravagée par la guerre depuis des décennies.
Pour moi, il faut absolument quand j'ai quitté Israël parce que je pouvais plus travailler là-bas parce que j'ai énormément bossé avec des Palestiniens là-bas et avec la montée de Netanyahou c'était impossible. Je voulais pas abandonner mes amis, la gauche, les assos, toute mon activité autour de l'occupation et d'être contre et de résister. Et en France, c'est pour ça que j'ai commencé ce projet, la quadrilogie de Mater. Pour résister et continuer et rêver et parler de cet endroit et pour que l'Europe n'abandonne pas ses territoires et que la France, même si je trouve qu'il y a une forme de lâcheté aujourd'hui en France ou en Europe face à Israël ou un soutien très très bizarre aussi dans l'armement et dans l'économie israélienne, je me suis dit que dans le travail, il faut absolument que je continue à rêver. Et c'est marrant que vous parlez d'un rêve parce que le rêve du vol, c'était un rêve que je faisais récurrent quand j'étais très petit, 6-7 ans. Et j'ai cru que je rêvais, que je volais vraiment. J'étais sur une plage entre Tel Aviv et Gaza. Et j'ai gardé ça en secret de mes parents parce que j'ai pensé que c'était vraiment un super pouvoir que j'avais. Donc l'idée aussi du vol, comme cette histoire m'a beaucoup impacté et le 7 octobre et Gaza, je voulais donner avec ce vol-là une forme de légèreté et de l'amusement pour trouver encore le jeu et comme si on était dans la chambre d'enfant de Yad El-Khalak et que c'est lui qui rêvait ces oiseaux-là.
Mais c'est un super pouvoir que de pouvoir imaginer l'absence de frontières et le passage d'une rive à l'autre et d'un pays à l'autre parce que finalement il n'y a pas de frontières dans le ciel.
Non, il n'y a pas de checkpoint et il n'y a pas vraiment le rapport aussi avec l'argent et l'économie israélo-palestinienne. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas un luxe dans la situation où on est, que c'est pas assez naïf de parler de la paix ou d'une solution. Pour moi, c'est la seule solution. C'est pas d'une manière naïf de dire aujourd'hui, on peut encore oser parler de la paix. Non, c'est juste la seule solution, tellement on est dans la tragédie et que ça nous engloutit, que c'est la seule manière aujourd'hui de dire, OK, ça va venir soit dans un an, dans 5 ans, dans 20 ans, et il faut commencer à parler de ça aujourd'hui.
Les personnages de votre spectacle Au nom du ciel parlent comme des oiseaux. Ils sont des oiseaux, mais ils sont parfois aussi les comédiens, les personnages du drame. Et vous tentez quand même une reconstitution très précise, minute par minute, de ce qui s'est passé dans ce fameux local à poubelle où Yad a été assassiné, en donnant la parole aux uns et aux autres, et notamment à Warda, qui est la jeune femme qui s'occupait de Yad.
Ce jour-là, je suis passée devant le poste de police comme d'habitude. Et puis, je suis arrivée au parking à côté du local poubelle. Et là, j'ai entendu des cris. Je me suis retournée. C'était Yad. Yad. Rabbi, mais mon amour. Et j'entends des cris de soldats aussi. Et le bruit d'une arme dans leurs mains. Et un tir. Ils ont tiré sur lui. Il y a un des hommes de ménage qui me dit « Safka, viens par là, viens te cacher !» Et moi, honnêtement, voilà, j'ai eu peur. Je voulais me protéger. Donc je suis allée au local. Yad me suit en boitant. Il me regarde. Et puis, il se retourne vers les soldats. Je suis avec elle. Je suis avec elle.
Warda, la jeune femme qui a accompagné Yad, qui a donc été le témoin oculaire de l'assassinat. Comment vous avez procédé pour écrire ce spectacle? Vous avez donc rencontré des ornithologues, vous avez été en résidence en Cisjordanie. Avez-vous dit, est-ce que vous avez aussi rencontré Warda? Est-ce que vous avez rencontré des témoins? Est-ce que vous avez assisté au procès? Ou tout est documenté?
J'ai beaucoup travaillé avec des journalistes qui ont accompagné la famille d'Yad. J'ai pas rencontré Warda ni les parents d'Yad, un tout petit peu vite fait, mais pas vraiment d'une manière profonde. C'est surtout, j'ai beaucoup travaillé avec tous les documents du procès et avec des journalistes qui ont accompagné la famille du soldat et la famille d'Yad pendant ces 3 ans et demi. Et après, j'ai créé de la fiction, même si c'est très documenté sur ces témoignages-là.
Et il y a eu un procès sur scène avec une reconstitution partielle, un procès et un verdict.
Exact, mais c'est une des rares fois aussi en Israël où il y a un procès contre un soldat pendant son service. C'est l'État d'Israël contre ce soldat israélien qui a tué Yad, et le verdict, oui, malheureusement, 3 ans et demi après, le soldat a été acquitté.
Pour légitime défense. Ouais. Comment un jeune soldat de 18 ans tue un homme handicapé de 30 ans? Parole d'oiseau.
Martinet, il arrive de Bamako, là. Tu lui dis, il y a un Palestinien autiste, il s'est fait tuer par un soldat israélien, c'est bon, il n'y a pas de discussion, il sait qu'il est le monstre.
Et alors?
Et alors quoi? Tu sais pas, dans la vie, il n'y a pas tout le monstre. Tu sais pas ce que c'est être un soldat ici, je contextualise, comme ça il comprend un peu. Ah, et puis qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais la choquer, là, en fait? Pourquoi tu fais la choquer? Qu'est-ce que t'as? Le gamin, il a 18 ans, il débarque au milieu d'un conflit, il y a 10 000 ans, il y a de la pisse dans son franc, tu crois quoi en fait?
10 000 ans? Ah ouais, quand même.
Non, attends, tu sais pas ce que t'aurais fait à sa place. Je sais pas ce que j'aurais fait, tant que tu sais pas, peut-être que t'aurais fait pareil.
Mais donc!
Qu'est-ce qui se passe avec la peur, la peur de mourir, le stress?
Mais donc, il a bien fait son travail ou quoi?
Arrête!
Est-ce qu'il a bien fait son travail?
Bien sûr que c'est une tragédie, qu'est-ce que tu veux, mais. Ne fais pas dire des conneries! C'est juste que c'est tous des victimes de cette situation, de cette haine.
Non, putain. Parfois, t'as des bourreaux et t'as des victimes. Je suis pas d'accord. T'as des gens qui tuent et t'as des gens qui meurent.
Yuval Rossman, l'un des oiseaux prend la défense du soldat sur scène dans votre texte. Parce que ça ne doit pas être un spectacle à charge. Parce que la réalité est forcément complexe.
Oui, la réalité, bien sûr, la réalité est très très complexe et ça m'a intéressé. Je pouvais pas faire ce spectacle sans donner la parole aussi à ce soldat, même si c'est vraiment désagréable et pas évident dans la salle, toujours au moment où il y a la parole de ce soldat, parce que c'est pas forcément une parole qu'on a envie d'entendre, mais pour montrer aussi la complexité de toutes ces voix et ce soldat aussi, malheureusement, ça pouvait être aussi moi à l'âge de 18 ans, et je parle plus du système. Moi aussi, j'étais soldat à Gaza. Malheureusement, même si j'ai pas terminé mon service militaire et j'ai déserté au bout de 2 ans. Mais je parle plus aussi du système, de ce qui a fait qu'un soldat de 18 ans, après 2 mois de service militaire, il est dans l'endroit le plus explosif du conflit israélo-palestinien, dans la vieille ville de Jérusalem, se retrouve là-bas. Et alors que tout a commencé par une erreur de 2 policiers israéliens qui ont dit qu'Yad était terroriste.
Voilà. Vous vivez en France depuis maintenant une douzaine d'années à peu près. Est-ce que vous avez le sentiment que la liberté est possible pour vous exprimer sur ce conflit-là, ou est-ce que une partie de la communauté juive peut vous considérer comme traître, ou une partie des pro-palestiniens peuvent vous considérer comme trop ambigu? Tu fais l'avocat du diable, hein?
Bien sûr, mais tout le monde n'est pas content quand je traite ce sujet. Parce que même si je pense dans ma vie privée ou dans la presse, mes spectacles, je ne fais pas Free Palestine sur le plateau. Le spectacle, il est ailleurs. Mon rapport à l'art, il est différent. Et oui, c'est vraiment... j'avais beaucoup de dialogues aussi avec le BDS. BDS, et puis chaque fois, je leur ai dit, le plateau est à vous. Je trouve
que ce serait, peut-être que ce serait absurde de attaquer ou de boycotter mon spectacle parce que on pense pareil, on a les mêmes convictions, on a le même combat, mais si je dois sacrifier ma pièce, le plateau pour cette cause-là, bien évidemment que je le ferai. Après, avec la communauté juive, pareil, ça dépend la ville, ça dépend... Pour ce spectacle, pour l'instant, on n'avait pas énormément de soucis, c'était plus sur The Jewish Hour, notre spectacle, où il y avait beaucoup de mouvements et de menaces.
Et hier soir, c'était calme. Merci Yovel Rossmann. Au nom du ciel se joue au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 20 décembre. Le texte est publié aux éditions des Solitaires Intempestifs. Et pour ceux qui ratent ces représentations, vous êtes encore à Paris du 12 au 18 janvier au 104, puis à Bordeaux, Anvers, Liège, Genève, etc. etc. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo et Yasmine Boulan, Laura Pinto à la réalisation. Et on retrouve tout de suite dans quelques minutes Anne-Cécile Bras. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
De quoi parlez-vous aujourd'hui ?
Du Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie ?
Et c'est donc le programme de...
C'est pas du vent.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Pendant la Révolution française, elle osa rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Au Théâtre Essaillon, Véronique Attali présente Olympe avec un S entre parenthèses, un aller-retour féministe, drôle et amoureux qui mêle le parcours d'Olympe de Gouges et celui de Florence, une comédienne de théâtre d'aujourd'hui.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, samedi à 18h41 sur RFI.
Seize heures à Paris et à Ramallah, vous écoutez RFI. Juliette Pietraszewski, bonjour, c'est l'heure du journal.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, alors que l'avenir de l'Ukraine semble encore incertain, on reviendra avec notre correspondant à Berlin sur les dernières déclarations du chancelier allemand. Une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes a été soumise hier au président américain. En Géorgie, nouvelles mesures contre des manifestations pro-européennes. Le régime autoritaire et anti-Union européenne se consolide. Correspondance à suivre. Et puis dans la bande de Gaza, de fortes pluies, conséquence du passage de la tempête Byron. On en parle dans ce journal. De nouvelles propositions de Kiev sur des concessions territoriales en Ukraine. Voilà ce qui a été transmis dans le